C'est tellement important de savoir que Dieu ne peut pas accepter ce qui est dilué, ne peut pas accepter ce qui est altéré. L'apôtre Paul disait, nous n'altérons en rien la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas la diluer. Nous ne pouvons pas rendre donc plus confortable le message de la croix, parce que le message de la croix n'est pas confortable. Le message de la croix n'est pas donc un message donc, dont tout le monde en raffole. Tout le monde court derrière pour essayer de vivre donc, que le bonheur, que la tranquillité. Mais aussi, quand on lit dans le livre des psaumes, nous voyons l'angoisse qu'il sentait par rapport à celui qui était destitué, par rapport à celui qui était complètement donc abandonné. Nous voyons aussi donc prendre le fardeau du cœur de Dieu, comme David le faisait, comme il l'a exprimé. Les valeurs du cœur du Père, Dieu mettra ses lois dans nos esprits, Hébreux chapitre 8, verset 10, et les écrira dans notre cœur. Quelles sont les valeurs du cœur du Père? Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ, et j'aimerais vous dire, les valeurs du cœur du Père se vivent dans le cadre de l'Église locale. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas d'Église et qui sont en train de servir le Seigneur à droite à gauche, mais qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas d'attache. Alors, attention. Oui, mais il y a des miracles. Oui, mais il y a des grandes choses qui se passent. Oui, mais on voit ci, on voit ça. Si ce n'est pas attaché à la valeur du cœur du Père, par rapport à l'Église locale, par rapport à l'Église de Jésus-Christ. Donc, s'il y a des personnes qui se convertissent lors d'actions d'évangélisation, qui va faire le suivi? Qui va accompagner les personnes à vraiment devenir disciples de Jésus? Qui va, donc, pas seulement donc, prendre le temps de leur parler, de chanter, de danser, mais qui va prendre le temps de vraiment les accompagner et les aider à découvrir les valeurs du cœur du Père. Dans les cours de base donc, que nous donnons ici dans cette église locale, il y a beaucoup de valeurs du cœur du Père qui sont manifestées, qui sont révélées dans les enseignements qui sont donnés. C'est important pour ceux qui, voilà, pour ceux qui ont fait les cours de base, pour ceux qui sont préparés pour le baptême. Vous avez compris qu'il y a certains principes sur lesquels l'église de Jésus-Christ elle est basée. Mais la première chose que Dieu cherche, c'est les adorateurs. La première valeur du cœur du Père, c'est l'adoration. Valoriser notre relation avec Dieu et comprendre qui il est. En Jean chapitre 4, vous connaissez bien l'histoire, Jésus rencontre la femme samaritaine. Et donc à un moment donné, il y a un dialogue qui se passe entre eux. Rappelez que donc, les disciples sont allés chercher à manger pour Jésus et pour eux-mêmes. Jésus se tenait près du puits. Et donc il y a une femme qui arrive donc, pour chercher de l'eau. Et donc voilà, Jésus commence à parler avec elle. C'était un rendez-vous de Dieu. C'était une rencontre que Dieu avait établie. Je lisais en Ésaïe, donc cette semaine, il dit, venez à ma rencontre. Venons à sa rencontre. Ici, il y avait un rendez-vous, une rencontre que Dieu avait établie. Et à un moment donné, donc, Jésus est en train d'expliquer à la femme que lui, il pourrait lui donner une eau vive. Une eau donc, si elle le boit, elle n'aura jamais plus soif. Et ensuite, elle comprend qu'il y a quelque chose de doctrinal, quelque chose de spirituel, commence à dire, voilà, nous, on nous a instruit qu'il fallait donc adorer Dieu d'une certaine manière, etc. Et alors Jésus lui dit, mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais on ne peut pas adorer Dieu si on n'a pas une intimité avec Dieu. On ne peut pas tout simplement se dire, bon voilà, on va aller à l'heure du culte et on va adorer Dieu avec les autres. Il faut que cette adoration qu'on vit le dimanche, qu'on vivrait donc dans les groupes de maison, qu'on vivrait dans des rencontres qu'on peut faire entre nous, des rencontres dans des communions fraternelles, il faudrait que cette adoration vienne d'une intimité qu'on vit avec Dieu. Vous rappelez Marie vis-à-vis de Marthe. Alors, Marthe, elle était très occupée à préparer le repas, etc. Et donc Marie, elle était assise au pied de Jésus, en train de le contempler, avec les mains, certainement avec les bras comme ça, vraiment buvant tous les mots qui sortaient de sa bouche. Et alors Marthe, elle s'énerve, elle dit, mais maître, tu vois pas, elle ne m'aide pas. Et Jésus lui dit, mais tu sais, elle a choisi la meilleure part. Elle a choisi la meilleure part parce que, et cette partie ne lui sera pas enlevée, parce qu'elle a cherché à me connaître, elle a cherché à être en intimité avec le cœur du Père et avec mon cœur. Parce que lorsque nous adorons Dieu, vous savez, dans l'adoration et la louange, on dit qu'on commence avec un temps, donc avec des chants qui sont un petit peu plus mouvementés, c'est le moment de louange. Le moment de louange, c'est pour ce que Dieu fait. D'accord ? Et ensuite, on passe, donc, et ça s'est fait dans toutes les églises, il y a des moments quand c'est très très prononcé, d'autres non, et on passe vraiment vers des chants un peu plus lents, qui commencent à décrire qui Dieu est, son omniprésence, son omniscience, sa toute-puissance, sa bonté, plein d'amour, qui il est. L'adoration va être basée sur les adjectifs qui vont décrire qui il est. L'adoration. L'adoration vient d'une intimité avec Dieu. Et lorsque nous sommes rassemblés, c'est naturel, c'est normal que du fond de notre cœur jaillissent des mots de louange, des mots d'adoration. Lorsqu'on se rencontre avec quelqu'un, immédiatement, si on voit quelqu'un dans le métro, tout de suite un chrétien, tout de suite il peut y avoir une parole de louange, d'adoration qui montre pourquoi. Parce que le corps de Christ se rassemble, et quand le corps de Christ se rassemble, on va vivre dans l'adoration, parce que c'est une vie d'adoration. Vous savez, dans l'équipe louange, on a toujours encouragé donc à ceux qui encouragé et dirigé l'équipe, et aussi donc ceux qui étaient responsables par rapport à susciter cette adoration dans l'église. Ce n'est pas seulement le fait de venir et chanter. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé il y a 37 ans, la personne me disait, oui, mais nous dans notre église, on fait chanter les gens. Chanter, c'est quoi, c'est faire chanter? Et après j'ai observé et je voyais qu'il faisait chanter, c'est tout. Mais il n'y avait pas ce retour. Et je disais, Seigneur, certainement, donc, dans les deux, trois églises que j'ai vues, dans lesquelles il disait on fait chanter, je disais, mais ça ne serait pas plutôt les conduire dans un temps de louange, d'adoration, de leur donner envie de déposer leur fardeau au pied de Jésus. Merci Seigneur, parce que tous les dimanches qu'on vient, on n'est pas obligé de déposer des fardeaux, parce qu'on ne porte pas toujours des fardeaux si lourds qu'on peut à peine marcher. Hein. Il y a des fois quand on arrive, on a déjà préparé le culte dans notre cœur et dans l'adoration et dans cette intimité avec Dieu. Et on se dit, Seigneur, je suis là pour t'adorer parce que tu cherches des adorateurs en esprit et en vérité. Deuxième valeur du cœur du Père, c'est la parole de Dieu. Valoriser la parole de Dieu. C'est la parole infaillible de Dieu. Je vous ai encouragé à lire les psaumes. Je ne sais pas si vous avez lu donc le 20 du mois, le psaume 119. Parce que le 20 du mois, donc, c'était lire donc, le psaume 119 avec ses 176 versets qui sont un peu intimidantes. Mais rappelez-vous que dans presque chaque verset, il y a une attitude, un verbe, une action de notre attitude envers la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, elle est valorisée. De Timothée chapitre 3, verset 16, verset 17 nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En De Timothée chapitre 2, verset 14, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. En psaume 119 et verset 105, donc ta parole est comme une lampe sur mon chemin, une lumière, une lampe qui me dirige chaque jour. Tes paroles qui vont donc établir mon système de valeurs, ma vie. La vérité est rien que la vérité. La parole de Dieu. C'est pas bon, ça me convient, alors je vais le transmettre. Ça me convient, je vais lire que ça. Bon, aujourd'hui, vous savez, donc, même dans les églises, il y a des personnes qui n'amènent plus leur Bible. Hein. On amène donc le téléphone. Et donc, espérons pour les pasteurs, j'ai entendu des pasteurs, donc j'espère qu'ils sont en train de vraiment suivre la parole de Dieu dans leur téléphone et pas en train de regarder donc des réseaux sociaux, etc. Mais moi, je vous encourage, maniez les feuilles de la Bible. Emmenez votre Bible ici dans notre église, pas de compromis, emmenons la Bible. Ouvrons la parole de Dieu. Sinon, quelqu'un dit, bon, on va lire dans l'Apocalypse, ils sont en train de chercher un roi. Attendez. Quand même, ça fait quelques années que le téléphone existe, mais avec le téléphone, on n'est plus obligé de chercher. Hein, on n'est plus obligé de chercher. Un dimanche pendant l'été, je vais faire un petit concours hein, pour voir si on connaît vraiment la parole de Dieu. Hein. Pourquoi? Parce que si nous ne valorisons pas cette parole, si nous ne donnons pas l'importance, si nous ne prenons pas le temps de souligner, de marquer avec des marqueurs fluo s'il le faut, etc. Tout simplement, Seigneur, je veux que ta parole soit inscrite sur mon cœur. Il y a plusieurs années, donc on avait fait une mémorisation pendant l'été, hein, il y a plusieurs années, Brian était toujours là, donc il avait peut-être 15-16 ans. Et donc les jeunes surtout avaient mémorisé donc quelques chapitres de la Bible. Et ensuite les moins jeunes avaient donc mémorisé la moitié d'un chapitre ou des psaumes plus petits et ainsi de suite jusqu'au dernier. Donc il y avait deux et trois ans qui mémorisaient des petites phrases. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. On sait bien que car cela est juste, c'est ceux de 4 ans qui ont appris car cela est juste, etc. Et donc, et à la fin de l'été, donc on a fait ça pendant tout l'été, pendant toutes les vacances, etc. Et donc, on a fait des prix, on a donné des bibles à à tous les jeunes, à tous les ados hein, qui avaient appris. On a fait, voilà, c'était vraiment une célébration. On a fait un gâteau en forme de bibles à la fin d'un culte. Et donc, alors, tous les enfants étaient là, assis. Les chaises étaient entreliées avec un roubon un petit peu doré qui liait toutes les chaises. Tous les adultes étaient là-bas et tous les jeunes et tous les enfants étaient devant. Et Brian a écrit un chant qui dit « Ce que j'ai appris avec mon intelligence, inscris-le sur mon cœur. » Dans la semaine, il a écrit le chant et il a chanté le dimanche matin. Et commençait « Pourquoi apprendre tant de versets ? Pourquoi graver ces paroles dans mon cœur ? Seigneur, ce que j'ai appris avec mon intelligence, il faut que ça aille plus loin, inscris-le sur mon cœur. » La parole de Dieu, ça, à chaque instant. Troisième valeur, c'est la prière. La prière. Et je vais vous dire que cette année dernière, nous avons failli par rapport à la prière. Nous avons failli, donc, à ne pas pouvoir nous rassembler. À partir du mois de septembre, le deuxième dimanche du mois sera un moment de jeûne et prière. Il n'y aura rien, personne n'ira à l'église chinoise le deuxième dimanche, ni le matin, ni l'après-midi. On va vraiment avoir un temps de chercher la face de Dieu ensemble. Dimanche, le deuxième dimanche du mois, il est impératif, si l'église ne prie pas, on n'avance pas. On n'avance pas. Les jeûnes de prière en semaine n'ont pas été brillantes en assistance, n'ont pas été brillantes en présence. Et je dis, Seigneur, alors il faut qu'on valorise ce temps passé avec toi, mais aussi le temps d'intercession, de prière efficace. À quel moment est-ce que je vais savoir si la prière de mon frère, de ma soeur est une prière d'un homme, d'une femme juste? Quand je verrai donc l'accomplissement de la prière. La clé du réveil spirituel, c'est la prière. Il n'y a pas d'autre, on ne peut pas contourner cela. Alors, il va falloir vraiment que nous, en tant qu'église locale, on rentre dans une saison, dans une culture de prière qui se perd au fil du temps. Mais nous ne pouvons pas, nous donner le luxe de le mettre de côté. Éphésiens chapitre 6, verset 18, nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Mais avant cela, il décrit les armes de Dieu. Au reste, fortifiez-vous, verset 10, dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Le diable est actif. Nous sommes en mesure de pouvoir nous protéger contre les ruses du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Toutes les armes. Vous ne pouvez pas prendre deux armes et laisser les autres du côté. Il faut être protégé entièrement. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse et la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, ça fait partie de l'armure, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et il disait, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. La prière. Il y a la prière privée, la prière personnelle, il y a la prière, la vie de prière que tu vis avec le Seigneur. Mais aussi, il y a la vie de prière publique. Et en collectivité, en tant que membre du corps de Christ, on se rassemble pour prier ensemble. On se rassemble pour donc frapper à la porte ensemble. Il y a des moments dans lesquels nous avons vécu des personnes qui passaient par des épreuves diverses. Et demander à l'Église de se rassembler pour prier. Et on a vécu. Aujourd'hui, par les textes, des fois, il y a des sujets de prière qui sont lancés. Audrey vous lance un sujet de prière et tout le monde se met à prier. Et nous avons vu les exaucements de cette manière. Mais rien ne va donc pouvoir se comparer à ces moments dans lesquels nous allons, par le jeûne et la prière, entendre une convocation de la part du Saint-Esprit à nous dire, venez à ma rencontre. Venez, vous voulez l'onction de Dieu sur votre vie, venez à ma rencontre. Il n'y a pas de secret, c'est par la prière et ensemble que nous allons vivre des victoires. Amen. C'est par la cette victoire. C'est toi qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quatrième valeur, c'est la sanctification. C'est le fait que chacun de nous, nous devons veiller sur le vase que nous sommes. Nous devons veiller sur le fait que si nous déclarons que Jésus, notre Sauveur, est Seigneur de notre vie, alors ce n'est plus nous qui sommes les maîtres, mais c'est lui qui est le maître. Et sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Il faut lever haut la bannière de la pureté personnelle. Il faut lever haut, donc, et porter ces diadèmes sainteté à l'Éternel. Dans le livre des Psaumes, nous voyons à plusieurs reprises, il portait des diadèmes qui disait sainteté à l'Éternel. Et quand les personnes les voyaient, ils voyaient que c'était un peuple qui invoquait le nom du Seigneur. Deux Chroniques, chapitre 7 et verset 14, vous connaissez bien ce verset. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai et je guérirai son pays. La sanctification. La sanctification. Il y a un verset en Ecclésiaste, chapitre 9 et verset 8, qui dit: qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais, ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps, Ecclésiaste 9 et verset 8, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Si Aaron et Moïse, lorsqu'ils rentraient dans le service, dans le tabernacle, devaient être imprégnés d'huile, devaient être imbibés d'huile, parce que c'était donc le symbole de l'onction. C'était le symbole donc d'une vie qui avait été oint après s'être consacrée à Dieu. Après avoir passé par l'autel de sacrifice. Après avoir passé par le récipient du lavacre d'eau, par la parole. La Bible dit, à un moment donné, donc, quand il rentrait dans le lieu très saint, il fallait qu'il soit oint. Quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous prétendons que l'onction des dieux, selon Ésaïe chapitre 61, cette même onction qui était sur Jésus, cette même onction qui vient maintenant pour être aussi déversée sur nous, pour qu'on puisse accomplir donc le grand ordre de mission, pour qu'on puisse savoir que c'est en marchant dans la sanctification, c'est ça que Dieu veut, que chacun de nous sache posséder son propre corps dans la sainteté, dans l'honnêteté. Cette sanctification, le fait que notre mentalité a changé, le fait que nos pas manifestent qu'il y a un changement dans notre cœur. Alors la sanctification, valoriser la seigneurie de Jésus, Levez haut la bannière
de la pureté
personnelle. Jésus est Seigneur et Royaume du ciel, oui. Mais moi, je suis crucifié avec Christ. Donc la chair, je suis crucifié avec Christ. J'ai crucifié la chair et ses désirs. La Bible dit, donc en Galates chapitre 5, et versets 16, 17, 18, il dit qu'il y a un combat entre l'esprit et la chair. Après, il va décrire quelles sont les œuvres de la chair. Ensuite, il va décrire quels sont les fruits de l'esprit. Et au verset 24, 25, il dit, car tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs. On meurt tous les jours à nous-mêmes. On lève une bannière de non-compromis. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Et nous ne pouvons pas, nous dire, bon, aujourd'hui, il ne faut pas être légaliste. Il ne faut pas être trop exigeant. Sinon, les gens vont fuir. Vous savez, la sanctification, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer. Quelque chose que... C'est vraiment donc une expérience de vie avec Dieu en tant que membre du corps. En tant que membre du corps. Et nous sommes tous appelés. Et c'est pour ça qu'il est dit en Hébreux chapitre 10, veillons, veillons les uns sur les autres pour nous provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres afin que chacun marche dans une foi sincère, dans une vie donc sans compromis devant Dieu. Alors une autre valeur du cœur de Dieu, c'est l'humanité. L'humanité dans laquelle il a mis en toute personne la pensée de l'éternité. On sait que l'âme qui pêche, cette âme mourra. On sait que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit et la vie éternelle ne périsse pas. Valoriser toute vie, reconnaître ce que Dieu... Et c'est lui qui donne le souffle de vie. Il y a plusieurs pays cette semaine qui sont en train de décider pour l'avortement. Depuis donc que les portes de l'avortement se sont ouvertes en 73, il y a des millions sur des millions de bébés qui avaient été conçus. Leur vie a été coupée. La décision de l'homme s'est dit... Cette vie-là ne vaut pas la peine d'être vécue. Je l'ai raconté il y a plusieurs années, je crois maintenant 35 ans peut-être. Il y avait une... Non, il y a 33 ans. L'église avait à peine un an et demi. Et donc il y avait une sœur dans l'église qui s'appelait Dominique, qui avait une amie qui s'appelait Brigitte. Et le mari lui a dit, « Ah, tu es enceinte, mais ça va faire conflit avec le temps des vacances. » Tu fais un avortement. Et alors Brigitte, elle a été complètement, complètement bouleversée dans sa mentalité. Elle s'est dit, non, mais on voulait un enfant, etc. Mais comment tu me demandes ça? Il lui a dit, mais si tu ne le fais pas, je te quitte. Et donc Dominique, qui était sa collègue, lui a parlé de Dieu. Et alors, elle l'a emmenée ici, et on l'a rencontrée, Denise et moi, on l'a rencontrée avec Dominique. On a prié pour elle, elle a gardé l'enfant, son mari l'a quittée. Mais aujourd'hui, elle a un enfant, peut-être elle est grand-mère, mais j'imagine... Mais jamais je vais oublier comment on prenait à la légère une vie. Et avec des larmes aux yeux, je l'ai supplié. Je l'ai supplié. Même si votre mari vous quitte, mais ne prenez pas la vie de l'enfant. Mais aujourd'hui, on veut se défaire de la vie. L'euthanasie qui commence à prendre une place, une ampleur dans le cœur de la pensée des personnes. Je voyais qu'en Belgique et en Suisse, l'euthanasie, c'est quelque chose de normal, naturel. Alors bientôt, donc, parce que la personne n'a pas certaines caractéristiques, on va la supprimer. Et c'est comme ça. Alors, on ne valorise plus la vie, c'est Dieu qui a donné la vie. C'est Dieu qui a donné le souffle. Je lisais le psaume 139, donc, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. J'étais déjà valorisé dans ton cœur. L'humanité... Personne n'a le droit d'édicter la fin d'une existence, la vie d'autrui ou même la sienne. Pourquoi ? Parce que Dieu aime l'humanité. Dieu aime chaque homme et chaque femme. Dieu aime chaque enfant, chaque famille. Dieu aime chaque individu. Dieu aime les personnes qui sont dans la rue, qui sont sans domicile fixe, qui sont inconnues. Je me rappelle en 2003, quand il y a eu la canicule et qu'il y a eu donc 15 000 morts en 3 semaines. Hein, donc cette semaine, on pensait bien à ce moment de la canicule et ça m'a fait penser à ce moment-là. Et je me rappelle que dans les journaux, il disait qu'il y avait 58 personnes qui avaient été trouvées, soit dans des maisons, soit dans la rue, qui étaient mortes et que personne ne venait les réclamer. Et au cimetière des Thiers, ils ont fait une fosse commune et ils ont mis les 58 dépouilles. Donc dans cette fosse commune, parce que personne ne les réclamait, c'est des personnes qui n'avaient pas de valeur, qui n'avaient pas d'existence. Et des centaines de personnes sont allées à cet enterrement. Je me rappelle avoir lu et vu. Donc pourquoi? Parce qu'ils disaient, mais ces personnes-là, quand même, ils existent. Et chaque être existe. Alors Jérémie, chapitre 1, versets 4 et 5, c'est là où Dieu parle à Jérémie. Dieu met sur Jérémie son sceau. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: ah Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis qu'un enfant. L'Éternel me dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Les paroles de l'Éternel avaient été déterminées et prononcées. Qu'est-ce que le Seigneur dit sur chacun de nous? Qu'est-ce que le Seigneur dit sur notre vie à chacun? Pourquoi a-t-il permis qu'on soit au bénéfice d'avoir entendu ce message de grâce, ce message d'amour? Dieu aime l'humanité. Il y a un chant en espagnol qui dit: Dieu n'a jamais pleuré pour la nature, il n'a jamais pleuré pour les animaux. Mais quand il a vu l'homme qu'il avait formé à son image tomber sous l'emprise du péché, là son cœur a pleuré. Son cœur a pleuré. Et du moment qu'il a dit: « Adam, où es-tu ?» Il savait qu'en cherchant Adam, il sentenciait Jésus à la croix. Dieu aime l'humanité. L'humanité est composée des peuples, des nations. Aujourd'hui, avec les millions de migrants, la transhumance de la population, l'humanité dans le monde entier, il y a des personnes qui commencent à conclure que certaines personnes n'ont pas des droits, certaines personnes ceci, certaines personnes cela. Dieu aime l'humanité. Quand vous entendez dire que ces dernières années, il y a eu 34 000 personnes qui n'ont pas survécu la traversée entre la Libye et l'Italie, entre l'Afrique et la Libye, et donc 34 000 personnes sont mortes ces dernières années, mais chaque personne qui est décédée a souffert dans l'abandon, a souffert complètement dans le désespoir. Et un jour, ils vont répondre à une éternité. Il dit en Ecclésiaste que Dieu a mis dans le cœur de chacun la pensée de l'éternité. Dieu connaît chaque être humain. Il connaît tout sur toute personne. La vie vient de Dieu. Donc ce n'est pas à nous de décider, pour aucune raison, qu'on peut supprimer une vie. Dieu aime l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il aime la famille. C'est aussi une valeur du cœur du Père. Le portrait de l'Église, ce foyer institué par Dieu. En 1 Timothée 5, 8, il dit: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, c'est comme s'il a régné la foi. Et il est considéré pire qu'un infidèle. Pourquoi? Parce que Dieu valorise la famille. Nous faisons tous partie d'une famille. Nous n'avons pas choisi la famille à laquelle nous appartenons. Dieu a permis qu'on naisse des parents. Dieu a permis qu'on voit le jour. Quelqu'un disait que depuis 1973, on est tous ceux qui sont nés après, on est tous des survivants de l'holocauste, de l'avortement. On est tous des survivants. Parce que qui c'est qui a décidé que ce bébé aller voir le jour. Une mère pleine d'amour, un père plein d'amour. Et jamais on ne va entendre dire qu'un enfant qui arrive, c'est un accident. Non. Peut-être une surprise. Hein? Peut-être une surprise, oui. Mais pas un accident. Peut-être inattendu, mais pas un accident. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui a établi que l'homme, il va avoir un carquois qui soit rempli d'enfants. Pour nous, c'était 7 enfants, maintenant on a bientôt 14 mini, donc mini flèches, petits enfants. C'est une joie de savoir que les enfants que Dieu donne au sein d'une famille, et il t'a donné à toi en tant qu'enfant au sein de ta famille, et tu as fait partie de ce carquois avec tes parents, et Dieu s'est servi d'eux, et Dieu les a utilisés avec leur expérience de vie pour te façonner, et Dieu a fait de nous tous des flèches aiguës. Pourquoi? Parce qu'il a un désir de se servir, les a utilisés. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des présages dans les mains de Dieu. Alors la famille, bien sûr, on commence par le mariage, c'est une alliance pour toute la vie, entre un homme et une femme. C'est ça, entre un homme et une femme. C'est ça le mariage. Tu ne désires pas non plus le divorce. L'homme est la tête, chef de la femme, comme Christ l'est pour l'Église. 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 3 nous dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Et ensuite, on peut supposer que les deux parents sont l'autorité sur leurs enfants. Sur leurs enfants. Si les parents ne sont pas l'autorité sur leurs enfants ne vont pas suivre les valeurs du cœur du Père. Alors les enfants obéissent à leurs parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, et tu vivras une longue vie. Et aussi, on est appelé à prendre soin de notre famille. Dieu compare, et une des valeurs du cœur de Dieu, c'est la famille. Aussi, une autre valeur du cœur du Père, c'est le grand ordre de mission que nous trouvons en Matthieu chapitre 28. Il faut valoriser la priorité du cœur de Dieu envers les perdus. Vous vous rappelez quand Zachée a été trouvé dans le sycomore, dans l'arbre, et que Jésus s'arrête et qu'il lui dit, mais descends. Descends parce que, Zachée, tu voulais te cacher. Tu pensais que tu ne valais rien, tu pensais que tu n'avais pas le droit donc de te présenter, même devant moi. Tu as essayé, mais tu étais curieux, donc tu as voulu savoir. Mais je vais te dire, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parce que les gens jugeaient Jésus, parce qu'il est allé chez Zachée. Et alors ils ont dit, mais attends, mais il mange avec des personnes frauduleuses, donc il mange avec des personnes donc impures, etc. Et là, Jésus m'a dit, mais le Fils, il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Le grand ordre de mission, dont j'ai fait référence tout à l'heure, aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle, faites des disciples de toutes les nations, baptisez les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les selon tout ce que je vous ai prescrit, rassurez-les, dites-leur que je suis avec eux jusqu'à la fin du monde. C'est auprès des personnes qui étaient dans l'incrédulité, auprès des personnes qui étaient perdues, qui étaient égarées, qui étaient comme des brebis égarées, la Bible dit. On ne peut pas contourner le fait. Cette grande ordre de mission continue à se faire retentir. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Car le jugement de Dieu arrive. La fin des temps arrive. Et c'est la responsabilité de l'Église d'annoncer à tous ceux qui veulent entendre, tous ceux qui veulent répondre avec réponse affirmative, qu'ils puissent aussi être inclus dans cette moisson. Car la valeur de la moisson, la valeur de cette moisson, c'est par son sang qu'il a racheté un peuple. C'est par son sang. On ne peut pas ignorer jusqu'où Dieu nous a aimés. C'est par son sang que nous avons été rachetés. Encore, une valeur, c'est une vie donnée, une vie consacrée à Dieu. Dieu veut nous bénir afin qu'on soit une bénédiction pour les autres. C'est ça qu'il dit en 1 Pierre chapitre 3, verset 8 et verset 9. Il dit que Dieu nous a appelés à être une bénédiction. Qui, moi, est une bénédiction? Mais Marc, mais t'es sur notre planète, pas moi. Alors qu'est-ce qu'il dit? Enfin, soyez tous animés, des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Dans la mesure où nous bénissons, nous allons aussi hériter la bénédiction. Dans la mesure où nous pardonnons, selon donc la prière, en Matthieu chapitre 6 de notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. Alors Seigneur, nous voulons hériter ta bénédiction lorsque nous bénissons les autres. De Corinthiens chapitre 9, verset 7 et verset 8. Cela parle de nos finances. Cela parle du fait que nous sommes entièrement donc convaincus que notre vie lui appartient. De Corinthiens chapitre 9 et verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mon père disait, Dieu ne t'a pas seulement sauvé toi, mais il a sauvé aussi ton portefeuille. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées, pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards, pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront vivre à Dieu des actions de grâce. Donc on sera béni et enrichi à tous égards, pour toute espèce de libéralité de notre part. Si on est béni, c'est afin que nous on soit libéral dans notre manière. On soit libéré, hein, libéré donc du poids de l'argent, et on est de la libéralité en donnant une vie donnée, une vie consacrée. Acte 20, verset 35, Jésus disait, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc une vie offerte, une vie donnée, une vie consacrée. Nous lui appartenons. Et alors, dans le sens pratique, nos dîmes, nos offrandes, nos sacrifices, bien sûr notre temps dans la prière, des actes de bienveillance, le fait de pourvoir aux besoins des autres, afin que nous puissions continuer à être une bénédiction. Une vie donnée, une vie consacrée, c'est encore une valeur
du cœur, du Père.
Aussi, numéro 9, l'humilité. Par la simplicité, par une sincérité, en comprenant une vie de sacrifice, en prenant le temps d'apprendre de Jésus qui veut nous apprendre à être doux et humble de cœur. Recevoir la parole de Dieu avec simplicité. Recevoir la parole de Dieu avec un cœur ouvert. C'est ça les valeurs qu'il faut qu'on instaure dans les cœurs de nouveaux disciples. Car Dieu veut nous toucher par son humilité. Hébreux 3, versets 12 et 14. Hébreux 3, versets 12 à 14. C'est une mise en garde, mais en même temps, en nous disant, exhortez-vous, on va le lire. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait pas un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Quand est-ce qu'on va manifester un cœur mauvais et incrédule? Lorsque on ne veut plus suivre dans l'obéissance. Quand on commence à raisonner les choses, quand on commence à faire du compromis, quand on commence à se dire « Oui, mais Dieu n'est pas si dur comme il était dans l'Ancien Testament, etc. » Et on oublie que le Nouveau Testament, il est venu pour accomplir la loi. Et combien de fois en Matthieu, il disait, il est écrit, « Mais moi, je vous dis, on va aller plus loin. » On va aller plus loin. Parce que Je ne veux pas que vous tombiez dans l'incrédulité. Si vous tombez dans l'incrédulité, vous risquez d'avoir un cœur mauvais. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Qu'est-ce que la Bible dit? Que dans les derniers jours, à cause de l'iniquité qui va augmenter, l'amour de plusieurs va se refroidir. Est-ce que l'amour de plusieurs se refroidit aujourd'hui? Oui. Oui. Dans le monde entier, c'est comme ça. Les personnes commencent à raisonner et commencent à essayer de trouver des tours, commencent à trouver une parole plus simple. Et non, attention, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que vous pouvez, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Nous vivons dans la simplicité, pour pouvoir faire encore plus pour lui. Nous amenons d'autres personnes à Christ, parce que nous voulons suivre ses pas. Et oui, l'humilité. Oui, nous retenons la vérité. Oui, c'est vrai. Mais comment nous présentons cette vérité? Nous la présentons dans un contexte d'humilité, afin que des personnes soient attirées et qu'ils disent, mais moi je veux être comme ce Jésus dont vous parlez, qui est doux et humble de cœur. Et une dixième valeur, le cœur du Père. Il veille sur l'Église. Il veille sur l'Église en tant que corps. Il veut que chaque membre du corps soit actif. Chaque membre du corps soit efficace. Chaque membre du corps soit perfectionné, comme il le dit en Éphésiens chapitre 4, en vue de l'œuvre du ministère, afin que lorsque chaque saint est perfectionné et qu'il accomplit l'œuvre du ministère, le corps sera édifié. Ça brûlait dans son cœur. L'Église de Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église, disait Jésus. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. La valeur du cœur du Père, l'Église, pour laquelle il a payé un prix suprême, inimaginable. 1 Pierre chapitre 4 et verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse dans la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous sommes tous appelés à annoncer, à exhorter tout homme et instruire tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'était le combat que l'apôtre Paul a décrit en Colossiens chapitre 1 et verset 28. L'Église de Jésus-Christ, elle est vivante, elle est triomphante, elle est victorieuse. Pourquoi? Parce que lui ne fait pas des choses à moitié. Il ne fait pas des choses à moitié. Il ne fait pas des choses médiocres. Jésus a bâti son Église et il continue à bâtir en nous. Et il faut que nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, locale que nous sommes, nous vivions selon ses valeurs. Nous soyons tous prêts à dire, Seigneur, lorsque tu reviendras, on n'aura pas honte. On ne cherchera pas à se cacher parce qu'on aurait suivi. On aurait suivi ta parole. On aurait suivi ce que tu nous as laissé. On aurait suivi tes instructions. Croyons-nous au retour de Jésus? Croyons-nous que Jésus reviendra bientôt? Croyons-nous et ne soyons pas alarmés par les différents signes qu'on peut voir. On ne va pas être de ceux qui vont se faire dicter par les signes qu'on va voir, etc. Tout le monde veut voir des signes partout. Dieu veut voir des signes dans nos cœurs. Il veut voir des choses gravées dans notre cœur. Il veut voir qu'on soit une église qui a une culture selon son cœur. Prions. Seigneur, nous te remercions. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous invites à nous placer devant toi. Dis, Seigneur, suis-je motivé par les valeurs du cœur du Père. C'est simplement une question qu'on peut se poser entre nous et Dieu. Seigneur, que veux-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? Comment puis-je encore être ce vase d'honneur, instrument entre tes mains efficaces? Nous ne voulons pas, Seigneur, baisser la barre. Nous ne voulons pas, Seigneur, rendre plus facile le chemin de la croix. Parce que le chemin de la croix n'est pas facile. C'est un chemin solitaire. C'est un chemin, Seigneur, qui produit une joie dans notre cœur parce que ton pardon vient en nous. Et nous savons que nous vivons sans condamnation parce que nos péchés ont été pardonnés. Mais Seigneur, ce n'est pas un chemin facile. Mais quelle joie, Seigneur, de marcher avec toi. Continue à nous parler au travers de l'Epsomme. Continue à parler à nos cœurs sur, au travers de la lecture de la parole que nous faisons. Que pendant ce temps, Seigneur, nous puissions prendre le temps de nous recueillir devant toi et de venir à ta rencontre. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et ensuite, l'exhortation en Jacques, c'est nettoyez vos cœurs, mon pécheur, et purifiez vos cœurs, mon irrésolu. Sentez votre misère. Répentez-vous, laissez que la conviction du Saint-Esprit vienne vous pousser à la repentance, afin qu'en temps convenable, il vous élève et vous soyez dans la joie. Alléluia. Soyez-nous, Seigneur, chacun, avoir nos yeux fixés sur toi. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu es l'auteur et consommateur de notre foi. Si nous sommes appelés, Seigneur, à marcher en tant que disciples, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, révèle ton cœur au nôtre. Donne-nous, Seigneur, de te connaître. Donne-nous, Seigneur, de t'aimer. Donne-nous de vivre ta Seigneurie dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes avec les yeux fermés un instant. Restons avec les yeux fermés un instant et en méditant sur une phrase, sur une parole. Mais est-ce que Dieu parle à ton cœur ce matin? Est-ce que tu es venu ici ce matin comme si tu venais à un rendez-vous? Et Dieu te dit, approche-toi de moi. Je veux m'approcher de toi. Est-ce que le Saint-Esprit fait brûler dans ton cœur ce désir dont on a chanté tout à l'heure? Nous avons soif, te désirons, feu dévorant, attissons-nous la passion pour ton nom. Est-ce que le Saint-Esprit nous pousse? Est-ce que nous sommes constamment donc poussés, attirés? Seigneur, je veux, Seigneur mon Dieu, ne pas manquer à ce rendez-vous. Je veux être sensible à ta voix. Je veux te connaître davantage. Si quelqu'un est ici pour la première fois, Dieu t'invite à le recevoir dans ton cœur, à croire en Jésus, à croire en son sacrifice, afin que tu aies la vie éternelle, afin que tu connaisses la vraie paix de Dieu. Mais aussi si tu avais besoin de te renouveler dans ton âme et dans ton cœur. En remerciant le Seigneur pour l'institution de ce qui est l'Église de Jésus-Christ. L'Église locale, chaque Église locale est différente dans sa manière, dans sa méthode. Et nous cherchons tous à comprendre quelle est la volonté de Dieu et discerner quelle est sa volonté et l'accomplir. Si le Seigneur t'encourage aujourd'hui, prends le temps, Seigneur. Je me place devant toi. Seigneur, viens, Seigneur. Creuse au plus profond de mon être. Que pendant ce temps, Seigneur, de réflexion, ce temps dans lequel on ne court pas à droite à gauche, peut-être c'est des moments un petit peu plus légers dans notre agenda, etc., qu'on puisse vraiment prendre ce temps. Et nous adapter aux valeurs du cœur du Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen.